Écho d'économie. Sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie. 18h15, heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, un reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
La planification est plus qu'indispensable pour atteindre les objectifs de votre ONG en cette nouvelle année, les objectifs de votre structure ou organisation. Cependant, elles sont nombreuses ces ONG, ces organisations non gouvernementales dont les animateurs n'ont pas la notion de planification. À la conséquence, il y a une mauvaise organisation du travail et les objectifs sont difficilement atteints ou les projets sont difficilement réalisés. Alors comment c'est quoi la planification? Comment arriver à planifier les activités ou les projets au sein de votre structure? Madame Brigitte Kaneka est experte en développement. Elle va vous aider en ces débuts d'année 2014. Madame Brigitte Kaneka, vous êtes experte en développement. Alors, la première question de savoir, c'est quoi la planification?
Merci Jordi pour la question. Planifier, c'est tout simplement prévoir en avance ce qu'on doit faire avant de le faire. C'est-à-dire que vous avez deux activités que vous devez faire au courant des années bien données, parce que vous êtes une ONG, et qui dit une ONG ou une association, cela veut dire qu'il y a des activités que vous devez mener. Et donc, au début de l'année, vous devez savoir que ce que vous devez faire durant l'année. Vous devez le savoir d'avance avant de le faire, pour ne pas naviguer à vue. C'est comme, moi j'ai toujours pris l'exemple d'un capitaine de bateau.
Oui.
Avant qu'il démarre son bateau, il doit savoir d'abord où il veut aller et quel sera l'itinéraire qu'il doit prendre. C'est ça ce qu'on appelle la planification. Et c'est la même chose dans les organisations. Avant de commencer une année, nous devons savoir qu'est-ce que nous voulons faire durant toute l'année et quels sont les moyens dont on aura besoin pour arriver à cela. Et c'est cela ce qu'on appelle la planification.
Alors, est-ce qu'on peut dire que le bilan de l'exercice 2013 et la planification, ça doit se faire au même moment?
Le bilan, c'est l'évaluation de ce qu'on a fait l'année précédente. Cela veut dire quoi? Nous sommes maintenant en 2014. En 2013, nous avons eu à faire des activités. Avant que nous puissions planifier les activités de cette année, c'est-à-dire l'année en cours, c'est-à-dire 2014, nous devons savoir alors qu'est-ce que nous avons prévu pour 2013. Qu'avons-nous fait? Quels sont les moyens que nous avons mis en place pour faire ce qui était prévu? Quels sont les résultats obtenus? C'est à partir de cette évaluation qui va nous donner le résultat de ce qu'on a obtenu l'année passée. C'est ce qui nous permettra maintenant d'organiser l'année en cours, de se dire, voilà, nous avons réussi en telle ou telle autre chose, nous n'avons pas réussi en telle ou telle autre chose. Maintenant, l'année que nous allons commencer, nous voulons commencer de telle ou telle autre façon. Donc, pour nous, l'évaluation de l'année 2013 va nous donner de la matière pour préparer l'année 2014 et de ne pas tomber dans les mêmes erreurs que nous avons commis en 2013. Et aussi, ça nous permettra de voir quelle était la réussite de 2013 ou de l'année passée pour que nous puissions les consolider et ajouter encore un plus pour que l'année en cours soit meilleure que l'année passée.
Alors, si une organisation évolue sans planification, quelles sont les conséquences, Madame Brigitte?
Les conséquences, c'est qu'ils ne feront rien. Parce qu'on ne peut pas naviguer à vue. Imaginons-nous un capitaine d'un bateau qui démarre un bon matin, il ne sait pas où il va, il ne sait même pas le carburant dont il a besoin. Mais comment voulez-vous qu'il arrive à destination? Cela voudrait dire tout simplement, soit s'il ne tombe pas en panne de carburant et il échoue quelque part, il va aller dans une destination qui n'était pas prévue. Et c'est la même chose avec les ONG. Si nous n'avons rien prévu, on ne peut pas s'attendre à des résultats. Parce que le résultat, on doit les prévoir. Et quand on les a prévus, on doit savoir quelles sont les activités qu'on doit mener, quels sont les moyens qu'on doit mettre en place pour qu'on arrive à atteindre ces résultats. Si on ne l'a pas fait, on ne peut pas, quelle que soit la magie qu'on puisse faire, on ne fait pas arriver à des bons résultats.
Bien, nous avons un auditeur en ligne, Jean-Vincent Gemondo, qui nous appelle des Lomela, Sankuru, au Kasaï occidental, oriental. Jean-Vincent, bonjour.
Bonjour, j'ai dit bonjour à l'invité. Meilleurs vœux à tout le monde.
Nos meilleurs vœux également à vous, à tous les auditeurs de Lomela. On vous écoute. Hein.
Merci, j'ai dit merci, je remercie madame, et surtout que c'est la première fois qu'une femme intervient comme experte à ce domaine. Je suis très content. Et je voudrais demander à madame, parce que j'ai suivi ces explications très riches qui nous édifient, mais je voudrais demander à madame qu'est-ce qu'elle peut dire des planifications qui se font sans les bénéficiaires. Parce que nous assistons à des projets ici au niveau rural.
Oui.
Un projet planifié à Kinshasa ou en Europe, on vient l'exécuter ici, au finish, l'impact n'est pas visible. Alors moi, je me dis, mais est-ce qu'on peut planifier un projet sans la participation des bénéficiaires? Parce que c'est ce que nous vivons ici souvent. Nous avons des milliers de projets qui s'exécutent, mais au finish, la population ne se retrouve pas. Alors qu'est-ce que madame peut dire à ce sujet-là?
D'accord. Merci Jean-Vincent. Patient, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Oui, bonjour, j'ai dit Daniel Kassama, c'est Patient Chitoko à Lubumbashi au Katanga.
Patient, nos meilleurs voeux, on vous écoute.
Oui, bonne année à tout le monde qui m'écoute en ce moment. Bon, alors, j'ai une préoccupation, la première est celle-ci, je voulais savoir, pour engager quelqu'un dans une ONG, puisque ici chez nous, pour engager déjà, il faut plus de gymnastique. Alors, pour engager quelqu'un dans une ONG, qu'est-ce qu'il faut? Et la deuxième question, qu'est-ce qui fait à ce qu'on n'aboutisse pas à la planification familiale? Puisque on peut planifier,
patient.
Mais on n'arrive pas à atteindre les buts.
Patient, d'abord, la première question ne cadre pas avec le thème du jour. Hein. Engager les jeunes au sein d'une ONG, bon, c'est pas vraiment le thème du jour. Et puis, il ne s'agit pas de la planification familiale, mais la planification des activités au sein d'une ONG.
Oui, oui, c'est ça ce que je voulais savoir. Bon, alors, la deuxième question, je voulais savoir, qu'est-ce qui empêche à ce qu'on n'aboutisse pas à la planification, puisque on peut planifier maintenant et on n'arrive pas à atteindre les buts, c'est ça.
D'accord, merci Patient. Nous avons un autre auditeur en ligne, Malonga, des Bandundouville. Bonjour.
Bonjour, oui, mon premier bonjour à Jody Kacham.
Merci. Meilleur vœu, Malonga, des Bandundouville. On vous écoute.
Ok, pareillement. Bon, selon cette planification, oui, on le fait toujours, Jody.
Oui.
Mais suite au manque de professionnels et de qualifiés, en tout cas, nous n'arrivons pas à récolter de bons résultats. C'est ce que je demande à notre invité là-bas. Mm-hmm. C'est que nous préparons souvent, chaque année, par exemple moi, en tout cas je n'arrive pas à concrétiser ce que moi j'ai envié. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Puisque aujourd'hui j'ai la préparation de construire mes deux maisons. Mais à chaque fois que je fais cela, vous verrez qu'il y a d'autres choses qui viennent envahir cette préparation.
Malonga.
Et je me retrouve, l'année termine encore comme ça, sans pour autant achever mes idées.
Malonga, vous prenez...
Donc comment est-ce
Malonga.
Que je peux planifier
oui.
pour arriver vraiment au résultat exact de mes préparations?
Alors, vous prenez l'argent de l'ONG pour construire vos deux maisons, c'est ça? Malonga, vous êtes en ligne? Allô? Voilà, il n'est plus là. Alors, c'était pour savoir si sa question cadrait avec, c'est dans le cadre d'une ONG ou bien c'est par rapport à la planification personnelle de sa vie. Bon, peut-être qu'on aura l'occasion, Tati, de revenir prochainement. Oui, oui, pour parler de la planification de vos projets pour votre vie, pour votre famille. Voilà, aujourd'hui, on s'intéresse particulièrement au monde des ONG. Madame Brigitte, vous avez suivi les différents auditeurs. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Ben, d'abord, je commence par leur dire grand merci pour l'intérêt qu'ils portent sur le mission. D'abord, la question des gens instants de Lomela. Qu'est-ce qu'on peut dire de la planification sans la participation de bénéficiaires? En fait, il y a un adage qui dit, si tu fais quelque chose sans nous, tu es contre nous. Et normalement, la planification doit se faire avec tout le concerné. Et on devait en arriver quand on devait parler de comment planifier les actes. effectivement, quand on fait les activités, quand on planifie les activités et que le bénéficiaire ne font pas partie de la planification, on ne peut pas s'étonner qu'au finish, on arrive à ne pas atteindre le résultat escompté. C'est pour cela, quand il s'agit d'une ONG, quand il s'agit d'une association, tous les membres doivent participer à la planification des activités. C'est là où on va définir qui fera quoi. Et en tant que membre, on a l'obligation d'avoir, d'avoir aussi charge par rapport à la mise en œuvre des activités.
Oui.
C'est pour cela que c'est bon, quand on doit planifier une activité, que tout le membre participe.
Mais généralement, généralement, c'est, les bailleurs de fonds ont déjà leur planning. Ils veulent, par exemple, mettre de l'argent dans tel secteur. Voilà, ils lancent un appel à candidature. Les ONG viennent. Et ceux qui gagnent le marché ici, on peut dire comme ça, ou les projets, voilà, ils sont financés pour aller réaliser les projets dans des milieux donnés, selon les plannings des bailleurs qui n'ont pas consulté.
Mais justement, c'est là où le bât blesse. Oui. C'est pour cela que la plupart des fois, on n'arrive pas à atteindre les objectifs. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Que le projet ne dure que le temps du financement. Et dès que le financement arrive à terme, il n'y a pas de résultats palpables. Parce que la plupart des activités que mènent les ONG, ce sont les activités qui viennent de l'extérieur. C'est pour cela que moi, j'ai toujours conseillé que dans chaque milieu, dans chaque coin, qu'on ait le plan de développement local et qu'on puisse s'imposer auprès de bailleurs. Quand il y a des gens qui veulent venir aider dans une localité donnée, Dieu donné, il faut qu'ils s'insèrent dans le plan de développement local qui est un document dans lequel chaque collectivité, chaque entité, chaque milieu met en évidence ses besoins et le moyen pour les atteindre. Et vous, en tant qu'ONG, quand vous voulez venir aider, parce que les ONG sont là pour venir en aide à ceux qui ont des problèmes, ils s'insèrent dans le cadre de votre plan de développement local. Mais ce qui est vrai, c'est que dans notre pays, il n'y en a pas beaucoup. Il y a quelques coins isolés, et c'est toujours avec l'appui de bailleurs qui sont arrivés à mettre en œuvre le plan de développement local. Et avec ça, j'ai toujours dit, et je l'ai toujours dit dans les antennes de la radio Okapi, que ça sera difficile qu'on puisse avoir le retombé de tout l'argent que le bailleur met pour aider la population de la RDC dans le cadre des ONG. Tant qu'on n'arrivera pas à s'insérer dans un cadre coordonné, qui est un plan de développement local, ça sera difficile parce que chacun intervient selon ses moyens, selon ses propres priorités et non selon les priorités des organisations à la base ou de la communauté. Donc ça, c'est la réponse par rapport à
Jean-Vincent.
Jean-Vincent. Et à M. Passant de Lubumbashi qui a demandé qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à la planification. Ou bien on planifie, mais on n'arrive
pas
les à des résultats.
À des résultats, voilà.
Oui, c'était plus la question. Moi, je dis justement, c'est quand on n'a pas bien planifié. Il ne suffit pas seulement de planifier. Il faut savoir qu'est-ce que nous voulons faire réellement, c'est-à-dire quelles sont les activités que nous voulons le mener. Nous voulons le faire quand? C'est-à-dire le mettre dans le temps. Et nous voulons le faire avec quoi? C'est-à-dire le moyen dont nous devons disposer. Et ces moyens, ça doit être des moyens réels. Ça ne doit pas être tout simplement des intentions. Il faut savoir que nous aurons besoin d'autant d'argent et nous sommes à mesure de le mobiliser pendant cette période. Et en dernier lieu, il faut savoir qui fera quoi. C'est-à-dire, chaque activité doit avoir un responsable. C'est seulement quand on a eu toutes ces données-là qu'on peut commencer les activités. Alors, en ce moment-là, on doit savoir qu'on peut réussir parce qu'il y a les objectifs qu'on s'est fixés en avance et qu'on est sûr qu'avec le moyen, c'est-à-dire le moyen matériel, le moyen humain, et le temps, on est à mesure de mener ces activités-là. C'est alors que la planification peut réussir. Et si je dois rentrer dans la question de M. Marunga du Bandundu,
oui.
Il dit, on fait toujours la planification, mais on n'arrive pas à avoir de bons résultats. En fait, c'est, je répondrai, comme je venais de répondre au deuxième intervenant, M. Bajan de Lubumbashi.
Oui.
Lui, il est en train de construire deux maisons. Mais la question que vous avez posée, M. Jordi, ce sont ces maisons à lui ou ce sont les maisons de l'ONG?
Oui.
Si ce sont ces maisons à lui, ce n'est pas notre sujet du jour. Mais si ce sont les maisons de l'ONG, ce n'est pas à lui de déterminer qu'est-ce qu'il doit faire. Il doit le faire avec tous ceux qui font partie de son ONG, tous les membres de son ONG, ils doivent s'asseoir, se mettre ensemble pour dire que voilà le moyen dont nous disposons et voilà les activités que nous allons mener. Dans une planification, par exemple, pour la construction de ces deux maisons, il doit savoir d'abord par où commencer. Il doit avoir le terrain. Oui. Le terrain, il va l'acheter quand? Quels sont les moyens qu'ils ont? Je suppose qu'il a déjà le terrain parce qu'il a déjà commencé la construction. Mais il doit se dire, on doit commencer par la fondation. Quels sont les moyens dont on a besoin? Va-t-il construire avec de moellons? Si c'est avec de moellons, combien ça lui demande? Le coût du transport de moellons? Où est-ce qu'il va aller trouver ses moellons? Ainsi de suite. Et il va commencer par la construction de murs. Et dans chaque étape, il doit faire la planification d'étape par étape. Oui. Et c'est alors, et puis aussi, il faudra qu'il se donne une certaine discipline. On sait s'il y a de moyens qui ont été prévus pour la construction de maisons pour leur ONG. Il ne faut pas que ces moyens soient détournés parce qu'ils ont peut-être des cas sociaux à résoudre. Mais il faut qu'il reste dans ce qu'il a planifié.
Oui.
C'est alors qu'il peut arriver à des bons résultats.
Mais il semble qu'il faut aussi prévoir les imprévus.
Absolument. Absolument.
Voilà. Bien, on va revenir tout à l'heure, Madame Brigitte, hein, pour parler des éléments d'une bonne planification. Les temps d'accueillir Aloïs Sakaji et Edgar Lokamba, les deux auditeurs, sont à Kananga. On va commencer avec Aloïs. Bonjour.
Bonjour, monsieur. Je dis Daniel Kachama, meilleur vœu à vous.
Merci,
à Aloïs. À madame ainsi qu'à toute l'équipe de Okapi Service.
Merci bien, on vous écoute. Hein.
Merci. J'ai seulement des petites questions que je cherche à poser à Madame Brigitte. La première question a deux volets. Le premier volet est celui-ci. À quand réellement faut-il planifier dans une ONG? Deuxième volet, combien de types de planification distingue-t-on dans les activités d'une ONG? La deuxième question, est-ce que la planification au sein d'une ONG dépend-elle de l'élaboration des projets bancables? Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on risque de planifier. Mais demain ou le lendemain, lorsque le bailleur des fonds vient offrir le marché, on se rend compte que la planification qu'on avait faite ne répond pas peut-être à ce que, ou aux conditions que le bailleur ont exigé. Est-ce que dans ces cas, on ne peut pas s'égarer de conditions un peu, vous voyez que, c'est pourquoi je voudrais un peu savoir quand est-ce qu'on peut réellement planifier.
D'accord, vous pouvez faire une planification, mais cela ne correspond pas aux exigences des bailleurs de fonds. Alors, voilà, merci Aloïs. Edgar Lokamba, vous êtes aussi à Kananga. Bonjour.
Bonjour, merci Jody de m'avoir accordé la parole à ce premier numéro du magazine au capitaine service de l'année.
On vous écoute.
Ok, à en croire notre invité Jody, la planification est la première fonction vraiment du management. Elle revient à scruter l'avenir et dresser un plan d'action. Mais dans ce genre d'opération, on sait que les ressources sont limitées et les besoins sont illimités. Alors, la question que je pose à notre invité, comment procéder pour sélectionner les problèmes prioritaires? Et la dernière question pour rejoindre mon prédécesseur, on parle aussi de planification à long terme, moyen terme et à court terme. Je voudrais aussi que l'invité puisse dire un mot par rapport à ça. Merci beaucoup, Jody.
D'accord. Madame Brigitte.
Oui.
Vous avez la parole.
Par rapport à la question de M. Louise, hein, quand faut-il planifier? Nous avons dit que la planification se fait toujours en début d'année. Et c'est pour cela que vous avez remarqué que la radio Kapi a prévu que sa première émission de magazine pour l'année 2014 soit la planification de projet. La planification des activités, excusez-moi. Et effectivement, la planification se fait toujours au début de l'année, avant de commencer les activités en cours. Je sais qu'il y a d'autres organisations parce que ce que nous devons retenir aussi, c'est que toutes les organisations n'ont pas la même année d'activité. Il y a d'autres organisations qui commencent au milieu de l'année. Ça dépend d'un bailleur à l'autre. Il y a le bailleur qui commence une année à partir de septembre jusqu'à fin août de l'année suivante. Il y en a qui commencent au mois de juin, ainsi de suite. Mais ici, nous sommes en train de suivre le calendrier normal. Donc, nous suivons l'année civile, en fait.
Oui.
Comme ça qu'on appelle. Il y a la différence entre l'année fiscale et l'année civile et l'année des activités. Cela dépend d'un bailleur à un autre. Mais nous, ici, nous sommes en train de suivre plutôt l'année civile. Et nous disons que si nous suivons l'année civile, qui va du mois de janvier au mois de décembre, la planification des activités doit se faire en début du mois de janvier. On doit savoir qu'est-ce qu'on va faire tout au long de l'année en cours. Et par rapport à combien de types de planification, je crois que nous avons trois types de planification. Mais aujourd'hui, je ne vais pas m'apesantir sur ça parce que ce n'est pas, nous ne sommes pas dans la planification des activités, mais nous sommes plutôt dans la planification annuelle. Donc, c'est une différence. La dernière fois, nous avions parlé de la planification des activités. En ce moment-là, on a parlé de trois sortes de planification. Et il a demandé aussi si la...
Voilà, il a demandé, vous pouvez avoir un projet, vous avez planifié vos activités, mais le bailleur vient avec ses exigences et que votre planification ne rencontre pas les objectifs du bailleur, donc vous pouvez rater les financements.
Ah, justement, c'est ça le problème. Et ce que je dois dire aussi, même les bailleurs, c'est rare qu'un bailleur finance les activités en cours de l'année civile. En tout cas, ce sont des cas. Normalement, il prévoit toujours de commencer une année civile pour le financement. Et donc, si vous êtes en cours d'année et que vous avez un bailleur qui vous demande de changer vos activités, bon, je me dis, étant donné qu'on est aussi subordonné à deux bailleurs, mais cela ne devait pas être fait comme ça. Parce que normalement, le bailleur devrait s'insérer dans le plan de travail que vous lui présentez. Mais aussi, ce que nous devons retenir, c'est que la planification doit être souple. Et c'est pour cela qu'on fait la planification, la révision à mi-parcours. C'est-à-dire, pendant l'exercice, on s'arrête à un certain moment. Normalement, c'est au milieu de l'année, vers le mois de juin-juillet. On s'arrête pour voir qu'est-ce qu'on a prévu, quels sont les résultats obtenus jusque-là,
oui.
Et quels sont les objectifs qu'on s'est fixés, et si réellement, en fin d'année, on pourrait les atteindre. Et ça nous permet aussi de rectifier les tirs. Et donc, ça nous permet de revoir nos activités, et ainsi, donc, pouvoir les recadrer selon les réalités du terrain. Et donc, c'est en ce moment-là qu'on peut aussi insérer le desiderata du bailleur, s'il y en a.
Alors, Edgar dit, souvent, les besoins sont illimités, mais les moyens sont limités. Alors, comment maintenant établir les priorités?
Ben, c'est comme on a toujours dit, même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, en ce moment-là, quand les besoins sont illimités, c'est tout à fait normal. Même dans nos maisons, nous avons toujours besoin de plus, de plus, de plus. Mais on doit se cadrer selon les moyens qu'on a. Quand on a de moyens, vous devez voir quelles sont les priorités. Je prends un exemple. Nous sommes dans un village,
oui,
où il y a plusieurs problèmes qui se posent. Il y a le problème de malnutrition, il y a le problème de mortalité infantile dû au fait qu'il n'y a pas d'eau potable, il y a un problème aussi de manque d'électricité, parce que avec le modernisme, les gens ont des téléphones portables, tout ça, ils voudraient avoir l'électricité pour charger. Il y a un problème d'école qui se pose et tout ça. Tout ça, ce sont des problèmes réels qui se posent dans un village. Mais le village ne dispose qu'à supposer de 10 000 dollars. Qu'est-ce qu'on doit faire avec le building? Faudra-t-il commencer par construire les écoles? Et on s'est dit que pour construire une école, on a au moins de 30 000 dollars. Faudra-t-il construire un centre de santé qui nous demande 20 000 dollars? Faudra-t-il aménager un puits pour diminuer les taux de mortalité infantile dû au manque portable, ainsi de suite? Je crois qu'après réflexion, si tous les villages se mettent d'accord, on cherchera d'abord à diminuer la mortalité infantile,
oui,
en construisant un puits qui est une priorité, qui fait partie de plusieurs autres priorités. Et c'est comme ça qu'on doit réfléchir. Donc, on doit regarder les moyens qu'on dispose, la façon de se poser les problèmes, quelles sont la gravité de ces problèmes et quels sont les problèmes qui peuvent être considérés comme priorité des priorités et qui cadrent avec le moyen qu'on a.
D'accord.
C'est ça qu'on va faire, la planification.
Voilà, on va terminer avec la question d'Alphonse Boudril d'Ingbokolo, à Nitori. Alphonse, bonjour.
Bonjour, je dis Kassama. Bonjour à l'invité, bonjour à toute l'équipe de Dokati Service. Bonne année à tout le monde.
Bien, merci. On vous écoute, Alphonse.
Oui, j'ai deux questions à poser à notre invité. La première, c'est que vers les années 2004, il y avait une société de production de soja qui était venue s'installer à Imbokolo. Alors, on a constaté qu'après six mois après, la récolte avait été faite. C'était une bonne quantité, donc une bonne quantité de soja qui était déjà prête pour la vente ou les achats.
Oui.
Mais on a constaté que cette compagnie-là ou cette société-là a disparu juste quand on a récolté. Je voulais demander à notre invité, est-ce que c'est une mauvaise planification ou comment on peut interpréter ça? Deuxième question, quelle est la priorité dans une planification?
D'accord.
Voilà, ce sont mes deux questions.
Merci, Alphonse. Brigitte Kanika.
Merci beaucoup, Monsieur Alphonse. Monsieur Alphonse nous partage une expérience d'une société qui est arrivée chez eux, je suppose, et qui travaillait dans la récolte de soja.
Mmh.
Bon, la récolte ayant été bonne, la société a disparu juste après la récolte. Est-ce que c'est dû à une mauvaise planification? Je ne peux pas répondre d'emblée. Mais je me dis, la société, qui était une société commerciale, ce n'était pas une ONG, qui est différente, je suppose, hein, de notre sujet du jour.
Oui.
Normalement, peut-être qu'ils fixaient des objectifs qui étaient d'avoir un certain montant. Et pour elle, après qu'elle ait eu ces montants-là, elle n'a plus vu l'importance des restes sur place. Bon, je ne saurais vraiment pas répondre de façon précise à cette préoccupation. Mais seulement, je pouvais extrapoler en disant si c'était une ONG et que l'ONG était venue pour travailler dans le soja, et qu'il y a eu une bonne récolte et que l'ONG disparaît quelque temps après, la question serait de se poser, est-ce que c'était une priorité d'investir dans le soja? Et pour la société et pour la communauté. Parce que qu'est-ce qui explique que quand bien même la récolte a été bonne, mais la société disparaît après avoir vendu le produit de récolte? Il y a beaucoup de questions à se poser.
Voilà.
Et si c'était une ONG, je me dis que ce n'était pas vraiment une ONG qui est venue pour aider la population, mais qui était venue uniquement pour le besoin de la cause, c'est-à-dire avoir certains moyens et disparaître après. C'est pour cela que je demande toujours à la population de faire très attention quand il y a des organisations qui viennent s'installer. Il faut d'abord que vous puissiez partager la vision et savoir ce qu'elle est venue faire réellement.
Voilà, et puis il revient sur la détermination des actions prioritaires. Vous avez dit que c'est par rapport, il y a plusieurs priorités, mais il faut voir ce qui est...
La priorité des priorités.
La priorité des priorités, voilà.
Absolument, mais, avec le moyen dont on dispose. Parce que là aussi, c'est un problème sérieux. Ce qu'on a remarqué, c'est que beaucoup d'organisations font la planification à base de vœux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ce qu'ils aimeraient bien faire. Mais non, ce qui est réellement faisable. C'est ça la différence.
D'accord.
Il ne faut pas faire la planification sur base de vœux, mais sur base de moyens dont on dispose et selon le besoin réel de la population, mais surtout en faisant très attention aux moyens qu'on a pour qu'on n'arrive pas à avoir des chèques. Et le moyen, ce sont le moyen matériel, le moyen financier, le moyen humain.
Mais on entend souvent, nous avons une chronique ONG partenaire, la plupart des ONG qui passent disent toujours, après, non, on n'a pas de financement, la difficulté, on n'a pas de financement. Est-ce que c'est, on peut dire qu'il n'y a pas eu une bonne planification financière?
Justement, parce que moi j'ai toujours dit qu'on crée une ONG, ce n'est pas en vue de financement extérieur. Mais il faut d'abord avoir ses propres moyens. Le financement extérieur, c'est comme une troisième main. C'est comme ça que moi, je l'ai toujours considéré. Donc, une personne humaine à deux mains. Et s'il doit avoir une troisième main, que moi, j'ai toujours appelé, c'est comme une canne, quelqu'un qui marche avec une canne, c'est que le deux mains n'arrive plus à le soutenir ou le deux pieds n'arrive plus à le soutenir. Il a besoin de s'appuyer sur quelque chose pour avancer. Et c'est la même chose avec le financement extérieur. Et si aujourd'hui, dans notre pays, beaucoup de choses ne marchent pas, c'est justement parce qu'on crée les ONG uniquement par rapport au financement extérieur. Et quand ces financements ne viennent pas, c'est tout à fait normal qu'on n'arrive pas à atteindre ces objectifs. On peut faire une bonne planification, mais ce n'est pas de la magie. Parce qu'il y a des activités qu'on doit mener, et les activités demandent le moyen, même peu de moyens. Mais ces moyens, il faut savoir les mobiliser. Et c'est pour cela que si on attend tout de l'extérieur, c'est tout à fait normal que, quelle que soit la bonne planification qu'on puisse faire, qu'on ne puisse pas atteindre ces objectifs.
Bien. Merci, Madame Brigitte Kaneka, experte en développement. Merci d'avoir participé à ce premier numéro de l'année 2014 du magazine Okapi Service. Nos meilleurs voeux et à la prochaine.
Merci beaucoup et nos meilleurs voeux à vous aussi.